Si vous êtes fatigué de crier sur vos enfants, si vous avez l'impression de ne pas être la mère ou le père que vous avez toujours rêvé d'être, si vous rêvez de relations familiales plus apaisées, plus sereines, si vous cherchez l'équilibre entre fermeté et bienveillance, sans basculer ni dans l'autoritarisme ni dans le laxisme, alors j'ai quelque chose à vous proposer. Les jeudis soirs, du 16 mai au 27 juin, j'organise un atelier de parents en ligne, en tout petit groupe. Durant 7 semaines consécutives, je partagerai avec vous tous les outils de la discipline positive qui m'ont moi-même aidé à la fois à dépasser mon tempérament colérique et aussi à établir des relations plus saines et apaisées avec mes enfants. Nous ferons des jeux de rôle pour tester ces outils et voir ce qui vous convient. Nous réfléchirons ensemble pour trouver des solutions à vos problèmes parentaux et nous nous encouragerons mutuellement tout au long de ce parcours. Tout se passe sur Zoom. Vous pouvez donc participer à l'atelier tranquillement depuis chez vous sans payer une babysitter. C'est parfait pour les parents solos qui n'ont pas forcément un relais facile à la maison. Et pour encourager les couples à participer à deux, eh bien j'offre l'inscription à l'atelier aux deuxièmes parents. Alors rejoignez-nous vite, les places sont limitées et les inscriptions ne seront possibles que jusqu'au dimanche 5 mai pour nous laisser le temps de vous envoyer votre colis de bienvenue avec tout ce dont vous aurez besoin pour l'atelier. Moi j'espère vous retrouver très vite dans un groupe aussi extraordinaire que ceux des dizaines et des dizaines de parents qui ont déjà participé à des ateliers comme celui-ci et qui en sont tous sortis, tellement plus sereins. C'est simple, on a un taux de satisfaction de 100%. Toutes les infos sont sur la page d'inscription de l'atelier que vous retrouverez dans les notes de votre épisode. Alors bonne écoute et à très bientôt. Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souris 7, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. J'ai déjà évoqué dans un précédent podcast la question de travailler ou non pendant les vacances quand on pratique l'instruction en famille. Et j'ai parlé entre autres de notre solution à nous qui consistait à garder environ un mois de grandes vacances et à continuer à travailler le reste de l'été. Mais du coup, vous vous demandez peut-être à quoi ressemblent concrètement nos vacances en IEF. Comme c'est la fin des vacances, c'est un petit peu le moment de faire le bilan. J'ai décidé de vous partager notre fonctionnement pendant ces deux derniers mois d'été entre de l'IEF, qu'on a continué, des temps de repos, des visites avec des apprentissages informels et de la détente. La première chose dont il faut savoir qu'on a besoin en vacances, et la raison pour laquelle on a tous besoin de vacances, c'est qu'on a besoin de changer de rythme. Parce qu'on peut très bien se dire qu'après tout, en instruction en famille, on a une routine, on a un rythme qui n'est pas lourd pour les enfants. Ils travaillent de façon formelle uniquement le matin, sauf pour notre collégien qui travaille aussi l'après-midi. Donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit épuisant. Les après-midi, ils ont du temps pour faire des activités qu'ils aiment, pour jouer, pour voir des amis, etc. Donc on pourrait très bien envisager de poursuivre tout simplement pendant les deux mois d'été. Mais il se trouve que notre cerveau a besoin de changer de rythme de temps en temps. En particulier, il y a deux modes dans le cerveau. Il y a un mode contrôlé qui utilise à peu près 25% de l'énergie du corps uniquement pour le cerveau. C'est pour dire à quel point ça, le cerveau consomme de l'énergie dans notre corps. Ce mode contrôlé, il est activé lorsqu'on se concentre sur quelque chose. Ça peut être le cas quand on lit un livre, ça peut être le cas quand on suit une recette de cuisine, ça peut être quand on travaille, ça peut être toutes sortes de choses tant que notre attention est fixée sur quelque chose de particulier. Mais il existe un autre mode dans le cerveau qui s'appelle le mode par défaut. Alors ce mode par défaut, c'est un mode qu'on pourrait dire de détente, c'est-à-dire que le cerveau exerce seulement une surveillance diffuse. Et si jamais il perçoit un danger, là, il va passer en mode contrôlé en se concentrant sur le danger. Donc, il exerce juste une surveillance diffuse. Et puis, le cerveau se laisse aller à des rêveries, des réflexions intérieures. On laisse libre cours à ses pensées. On pourrait croire que c'est quelque chose qui, du coup, consomme beaucoup moins d'énergie dans le cerveau. Et en fait, pas du tout, c'est surprenant. Là où le mode contrôlé consomme 25% des ressources énergétiques du corps, le mode par défaut en utilise encore 20%. Ce qui est énorme. Donc même lorsque vous rêvassez, un cinquième de votre énergie passe dans votre cerveau. C'est fou. Et pour rentrer dans ce mode par défaut, on peut essayer de ne pas penser à quelque chose de précis, simplement laisser sa pensée vagabonder, ou éventuellement se lancer dans une activité qui sera légère ou qui sera répétitive. Par exemple, de la randonnée. On n'a pas besoin de réfléchir pour avancer, faire un pas après l'autre, sauf de temps en temps quand il faut suivre l'itinéraire, bien sûr. On peut faire du tricot, quelque chose comme ça qui est très répétitif. Ça peut être aussi planter une rangée de haricots, trou après trou, ben, on peut laisser sa pensée vagabonder encore. Et c'est vrai que ce mode par défaut, c'est important pour régénérer un peu le cerveau, de le pratiquer de temps en temps. Et ça, je dois avouer que je n'en ai pas eu assez cet été. Et c'est quelque chose sur lequel je vais essayer de travailler parce que je pense que ça me ferait du bien. Je pense que les enfants ont eu ces moments-là. Mon mari peut-être, qui passait beaucoup de temps à l'extérieur. Et encore, je ne suis pas sûre. Mais moi, en tout cas, ça m'a manqué. Pour vous donner un exemple, chaque fois justement que je faisais une activité légère, qui ne demandait pas beaucoup de concentration, enfin, faire la vaisselle, eh bien, j'écoutais un podcast en même temps. Et j'ai un petit peu réfléchi à cette question et je vous partage mes réflexions là-dessus parce que ça peut peut-être vous aider aussi à mieux récupérer, à mieux vous relaxer pendant vos périodes de vacances. C'est que j'ai compris que l'une des raisons pour lesquelles je mets un podcast, c'était pour manifester à ma famille que j'écoutais quelque chose. Et ils savent que quand j'écoute quelque chose, ben, il faut me demander pour me parler, attendre que j'écoute le podcast et ensuite me poser leurs questions. Et ça fait quand même comme une sorte de barrage qui me permet d'avoir un moment à moi. Alors, non pas que je cherche à faire barrage à ma famille, mais vous comprenez bien que je suis avec les enfants 24 heures sur 24. Et donc, à un moment donné, j'ai besoin de moments où je ne suis pas sollicitée en permanence par les questions, les réflexions, etc. de chacun de mes enfants. Et donc, le podcast me servait à manifester ça à ma famille. Et je pense qu'il peut y avoir d'autres solutions. Ça peut être, par exemple, de mettre des écouteurs sans pour autant lancer un podcast, simplement pour... Vous savez, il y a des gens qui font ça dans le métro, par exemple, pour ne pas être dérangé, pour montrer qu'on est occupé, on écoute quelque chose, même si, en fait, on n'écoute rien. C'est simplement une façon d'éviter les sollicitations qui sont trop fréquentes et pas si importante que ça. C'est évident que si les enfants ont vraiment quelque chose à me dire, ils m'interrompent dans mon podcast, ça n'est pas un souci. Mais ils vont pas m'interrompre dans mon podcast pour absolument tout et n'importe quoi. En tout cas, voilà, je me dis que pour les prochaines vacances, c'est quelque chose sur lequel il faudrait qu'on travaille, c'est de se laisser des moments où le cerveau est en mode par défaut davantage et où on se repose. On repose le cerveau, en tout cas. À l'inverse, de bonnes vacances, en termes de repos pour le cerveau, ça ne veut pas dire ne plus rien faire. En fait, quand on ne fait plus rien, c'est en réalité très mauvais pour le moral. Et je pense que, alors, je pense, et c'est le fruit de nombreuses recherches scientifiques, psychologiques, etc., un bon équilibre est de garder des activités, de garder un certain emploi du temps, un certain rythme, mais beaucoup plus léger. Ça peut être, par exemple, simplement de conserver le rythme des repas, de pas déjeuner à 16h ou se mettre à dîner à 22h. Essayer de garder un certain rythme qui va être reposant pour le cerveau parce que ça va éviter au cerveau de prendre une myriade de décisions qui sont déjà prises par la routine. Par exemple, est-ce qu'on déjeune maintenant ou est-ce qu'on déjeune plus tard? Et toutes les conséquences que ça peut avoir ensuite. Donc garder un certain rythme, garder un certain emploi du temps, un certain cadre, assez léger évidemment, ça permet quand même de se détendre. Et puis, ça permet aussi peut-être de garder un rythme de sommeil qui ne soit pas trop délirant. Parce que je ne sais pas vous, mais avec l'âge qui avance et les difficultés du quotidien, eh bien, chaque nuit où je dors mal m'impacte beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Donc le sommeil est devenu un peu une priorité. Et c'est vrai que les vacances sont une bonne occasion aussi de récupérer en sommeil, mais ça passe par une routine, parce que la meilleure façon de dormir et d'avoir un sommeil de qualité, c'est de s'endormir à peu près toujours à la même heure et de se réveiller à peu près toujours à la même heure. Donc voilà, pour se détendre, il reste utile de garder une certaine routine, même très légère, et de changer les activités que l'on fait habituellement pour des choses qui vont peut-être venir réveiller notre cerveau, sa créativité, etc. Ça peut être d'apprendre une nouvelle langue étrangère, ne serait-ce que pendant quelques semaines, juste avoir, je sais pas, quelques bases d'italien ou de coréen. Ça peut être de se lancer dans un loisir créatif. Ça peut être aussi de renouveler peut-être la décoration d'un endroit dans notre maison. Ça peut être de prendre l'habitude d'une nouvelle balade. Ça peut être tout un tas de choses. Mais même l'effort fourni par le cerveau en vacances peut contribuer à le régénérer si l'effort porte sur quelque chose de nouveau. Si on fait travailler notre cerveau différemment de d'habitude, quelque part, ça va le détendre. Parce que ça va... Alors, le cerveau n'est pas un muscle, mais imaginez que ça va détendre les autres parties du cerveau qui sont peut-être sursollicitées. Et imaginez que ça va activer des petits neurones partout dans votre cerveau qui vont faire comme des petits guilis dans le cerveau. Ça fait du bien. Imaginez ça comme un massage du cerveau. Donc voilà, le changement de rythme, c'est vrai que nous l'avons eu cet été, peut-être pas suffisamment ce qui concerne les temps de pause. Nos vacances, ça a aussi été un peu de travail. En particulier pour nos enfants, je parle de travail scolaire. Parce que pour mon mari et moi-même, évidemment, nous n'avons pas pris 2 mois de vacances. Nous avions tous les deux aussi notre propre travail. Mais en ce qui concerne les enfants, chacun d'entre eux a continué à travailler, pas pendant tout l'été. Ils ont eu des périodes sans travail du tout. Par exemple, notre aîné est parti 3 semaines en camp scout. Ça lui a fait un bien fou de laisser tous ses devoirs à la maison, de partir dans la nature, dans la montagne pendant 3 semaines. C'était extraordinaire pour lui, avec une vue sublime sur les Alpes, en pleine nature. Et ça, ça fait du bien avec plein d'amis, avec plein de jeunes adolescents de son âge. Mais malgré tout, chacun de nos enfants donc a travaillé pour des raisons différentes et avec des modalités différentes. Notre aîné, par exemple, a commencé son cours par correspondance fin septembre 2022 avec les cours ATMER qui sont très exigeants, en particulier en français. Et puis en anglais, il a démarré une 5e avec l'option d'anglais bilingue alors qu'il n'avait pas fait la 6e anglais bilingue. Donc il avait beaucoup à rattraper en anglais. Il avait un niveau de français à rattraper aussi par rapport au niveau des cours ATMER, avec une rédaction par semaine, 2 rédactions par semaine, les semaines de devoirs, qui étaient 1 semaine sur 2. Donc vous imaginez, 1 semaine sur 2, 1 rédaction, l'autre semaine sur 2, 2 rédactions dans la semaine. Donc beaucoup de travail. Bref, notre aîné s'est donc efforcé de finir le cours par correspondance de 5e pour pouvoir démarrer la 4e. Début septembre, sur de bonnes bases. Bon, ça, c'était lié à notre déménagement, c'est pour ça qu'il a commencé que fin septembre. Avant ça, on était un peu en stand-by, au milieu des cartons, et puis dans notre nouvelle maison, encore au milieu des cartons. Donc, c'était sa priorité. Pour notre fille de 5 ans, qui a appris à lire cette année, il était important d'entretenir la lecture et l'écriture, parce que ce sont des compétences qui étaient toutes fraîches pour elle. Et c'est important de lire un petit peu tous les jours, d'écrire un petit peu tous les jours, simplement pour que la main n'oublie pas musculairement ce qu'elle a appris, pour que le cerveau n'oublie pas non plus au niveau de la lecture. Évidemment que lorsqu'on est adulte, on peut passer 2 mois sans lire et on saura toujours lire. Quand on est enfant et qu'on vient d'apprendre à lire, c'est quand même plus compliqué, il vaut mieux entretenir. Et puis, pour notre fille qui est en 5e et notre fils qui était en CE1, enfin, notre fille qui rentre en 5e et notre fils qui rentre en CE2, l'été a servi aussi à compenser un peu des lacunes. Pour notre collégienne, qui était donc en 6e cette année, c'était l'anglais. Parce que malheureusement, elle n'a pas appris grand-chose en anglais. Je n'approuve pas du tout la méthode utilisée par son professeur, qui consiste à apprendre des phrases par cœur sans vraiment savoir dans la phrase quel mot veut dire quoi. Ce qui fait que elle retient les phrases absolument par cœur, mais elle n'est pas capable de réemployer des structures similaires dans d'autres phrases. Donc, on a beaucoup travaillé la grammaire anglaise avec des exercices de traduction, avec un ouvrage que j'aime beaucoup qui s'appelle « La grammaire anglaise au collège ». J'avais beaucoup utilisé la version de la grammaire anglaise au lycée, lorsque j'étais moi-même en lycée, et ça m'avait fait faire d'énormes progrès. Donc, j'ai repris ça avec notre fille, en version collège, pour travailler l'anglais pendant les vacances. Et pour notre fils, qui était en CE1 cette année, nous avons travaillé l'orthographe, parce que c'est sa bête noire. Il a des difficultés en orthographe. L'année dernière, lorsqu'il était scolarisé, malheureusement, on ne peut pas dire qu'il a appris grand-chose en orthographe. Donc, on a repris cette année, alors qu'il était il était en CE2, pardon, cette année. Mais justement, même s'il était en CE2, nous utilisions un manuel de dictée de CE1 de la librairie des écoles, alors qu'il est d'un bon niveau hein, par rapport à un CE1 classique. Un petit peu comme les cours Atmer sont de très bons niveaux par rapport à un collège classique. Donc, ce sont des dictées de CE1 assez exigeantes. Mais on a repris le niveau CE1 alors qu'il était en CE2. Et nous n'avions pas totalement fini les dictées de CE1, donc nous avons poursuivi les dictées de CE1 pendant l'été. Là aussi, pour qu'il puisse démarrer sur de bonnes bases, avec un nouveau cahier de dictées. Vous imaginez pas comme il est enthousiaste. Donc un cahier de CE2 alors qu'il sera en CM1, au niveau des dictées préparées. D'ailleurs, je vous le recommande chaleureusement aussi, il s'agit des livres de dictées préparées dans la collection Les Petits Devoirs de la librairie des écoles. Je trouve que les dictées sont bien faites, elles sont progressives, et il y a la préparation qui aide les enfants à comprendre les difficultés de la dictée. Le but est d'apprendre, c'est pas d'évaluer les enfants en orthographe. Donc vous voyez que chacun de nos enfants a travaillé pour des raisons différentes, à chaque fois de façon adaptée à leurs besoins spécifiques, individuels. Et ça, je pense que c'est vraiment une des richesses de l'IEF que de pouvoir justement prendre chaque enfant tel qu'il est et réfléchir à ce dont il a besoin individuellement. Personne n'a envie d'avoir un enfant roi. Et personne n'a envie non plus d'avoir un enfant complètement éteint et soumis parce qu'on l'aurait dressé à coups de claques ou de fessées. La grande difficulté de notre tâche de parent, c'est d'équilibrer la fermeté et la bienveillance sans jamais basculer ni dans l'autoritarisme ni dans le laxisme. Eh bien, c'est justement pour vous aider à retrouver cet équilibre entre fermeté et bienveillance que je vous invite aujourd'hui à participer à notre atelier de parents en ligne qui se déroulera sur Zoom du 16 mai au 27 juin prochain. Durant ces 7 séances, nous allons apprendre à poser un cadre dans toute la famille. Nous allons travailler sur ces notions de fermeté et de bienveillance, sur ce qui nous amène à plus de fermeté, ce qui nous amène à plus de bienveillance, pour essayer d'être les deux à la fois, et non pas de basculer entre le matin et l'après-midi, où on va être ferme le matin et beaucoup trop bienveillant l'après-midi. Et on va aussi apprendre à nous ressourcer. Dans la 3e séance, on va travailler sur l'ordre de naissance et son impact sur les enfants. Et nous allons aussi étudier ce que sont les comportements inappropriés chez les enfants et comment on peut y répondre. Dans la 4e session, nous allons faire tout un bloc pour passer de la punition à la recherche de solutions. C'est le bloc central de tout cet atelier et croyez-moi, c'est là qu'il y a les prises de conscience les plus phénoménales. Ensuite, on abordera la gestion des conflits, en particulier dans la fratrie, mais aussi évidemment entre enfants et adultes. Ensuite, on apprendra à mieux nous connaître grâce à un travail qu'on appelle les cartes dominantes. Et puis, on apprendra à trouver des solutions tous ensemble, en famille. Et enfin, durant la dernière séance, nous verrons comment passer un accord et nous y tenir et faire en sorte que tout le monde dans la famille s'y tienne. Voilà, si ce programme vous tente, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'atelier de parents. Pour cela, c'est très simple. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode et vous avez tout simplement jusqu'au dimanche 5 mai pour vous inscrire. Il nous faut un petit peu de temps pour préparer l'atelier, vous envoyer votre colis de bienvenue dans lequel vous retrouverez le livre La discipline positive et un porte-vue avec tous les documents qui pourront vous être utiles, toutes les ressources dont nous aurons besoin pendant l'atelier. Je vous laisse écouter la fin de votre épisode. Et n'hésitez pas donc à consulter le lien d'inscription qui se trouve dans les notes de votre podcast. Mais je vous le disais dans un épisode il y a quelques semaines, le travail, ça peut aussi être des activités informelles. Et en particulier en vacances, quand on va visiter des endroits, des lieux culturels, où il y a des choses à apprendre et à découvrir. Et donc l'été, évidemment, ça a été une saison un peu privilégiée pour ça, avec plus d'opportunités de se déplacer, de voyager un petit peu, même si on est très peu parti cette année. Et donc, nous avons visité tout un tas d'endroits. Nous sommes dans une nouvelle région depuis un peu moins d'un an. Et donc, nous avons exploré les musées de la région. En début d'année, nous avons pris un abonnement à un pass de musée qui comprend 365 musées. Donc, il y avait de quoi faire dans la région, dans le Grand Est et même en Suisse, en Allemagne, etc. Et donc, nous avons simplement pris la carte avec tous les endroits, alors pris la carte au sens du plan, où étaient indiqués tous les endroits auxquels ce pass nous donnait accès. Et puis nous en avons choisi plusieurs pendant l'été. Nous avons visité d'autres choses aussi suivant nos pérégrinations. Nous sommes allés au ravissant village de Liverdun avec ses fameuses madeleines. Nous avons aussi visité une exposition de céramique là-bas, totalement par hasard. Nous avons visité la citadelle de Belfort, le château de Lunéville. Nous avons écouté un petit concert rétro en amoureux à Épinal. Nous avons visité en famille l'écomusée textile du parc de Wesserling, ou Wesserlin, je vais le mettre aussi, je crois que c'est Wesserlin. Nous sommes passés par Langres, Sainte-Suzanne. À chaque fois, nous avons visité un petit peu, nous nous sommes promenés dans les rues en regardant les panneaux. Nous sommes allés sur les plages de Cancale, bref. Bref, nous avons exploré, découvert de nouvelles choses et appris de nouvelles choses. Et pour nous, c'est très important de montrer à nos enfants qu'on apprend tout au long de sa vie, que mon mari et moi-même avons encore beaucoup, beaucoup à apprendre et qu'on peut apprendre en toutes circonstances, y compris lorsqu'on est en vacances, y compris quand on se promène, et qu'on peut s'intéresser à ce qui nous attire naturellement, à nos centres d'intérêt, mais qu'il est intéressant, enfin, qu'il est intelligent, disons, de s'intéresser aussi à ce qui ne nous attire pas au premier abord, et de faire l'effort de nous intéresser pour découvrir de nouvelles choses. Parfois, on se découvre de nouvelles passions, parfois pas du tout. Parfois, ça nous donne la capacité à parler de tout avec n'importe qui, parce qu'on a des bases dans tout un tas de domaines, on a des connaissances sur tout un tas de domaines, ce qui peut donner lieu à une conversation plus intéressante, quelle que soit la personne en face. Donc les visites culturelles, évidemment, ont joué un rôle majeur dans nos vacances, mais, un autre aspect fondamental pour nous qui sommes passionnés de jeux de société, c'était les jeux en famille. Nous avons fait aussi des jeux de société, nous en avons profité pour faire parfois des jeux de société un peu plus longs, qui s'étalent sur plusieurs soirées ou plusieurs après-midi, des jeux qui durent 3-4 heures. Et c'est vrai que nous sommes d'une famille de joueurs, nous élevons nos enfants dans la passion du jeu de société, ce qui fait que très tôt, ils jouent avec nous. Alors, pour notre fille qui a 5 ans, qui vient d'avoir 6 ans, évidemment, souvent, elle est capable de jouer sans pour autant être capable de faire une stratégie intéressante et sans vraiment avoir la capacité de gagner. Mais elle peut jouer avec nous. Et c'est ça qui est important pour nous, c'est de partager ces moments en famille tous ensemble et partager notre plaisir de jouer tous ensemble. Nous avons aussi passé beaucoup de temps dans la nature. Nous avons énormément d'animaux maintenant. Et donc, il a fallu s'occuper des lapins, des lapros qui sont nés, qui étaient mais tellement mignons. Des poules et des poussins, les poussins aussi, qui étaient tellement mignons. Les petits animaux sont toujours, toujours tellement choux. Donc tout ça, c'était de beaux moments passés dans la nature. Nous avons fait des randonnées, des grandes balades, parfois des balades à la journée avec un pique-nique. C'est vrai qu'on le fait beaucoup moins souvent pendant l'année parce que consacrer une journée entière du week-end à une balade, c'est parfois un peu beaucoup parce qu'on a d'autres choses à faire. On a parfois des conduites, on a des courses, on a des activités, des rendez-vous, des choses à faire dans la maison. Bref, toutes sortes de choses qui nous empêchent souvent de partir à la journée. Donc là, nous l'avons fait. Et enfin, et peut-être plus important de tous ces éléments, nos vacances ont été l'occasion de retrouver la famille et beaucoup d'amis que nous avons pu accueillir à la maison. Et c'est vrai que pour nous, c'est le rêve, parce que maintenant, nous sommes dans une grande maison, donc nous avons la place d'accueillir. La place d'accueillir des membres de la famille qui vivent loin ou moins loin. La place d'accueillir des amis qui peuvent venir nous voir et rester une semaine avec nous sans que ce soit pesant. Parce que ça a commencé quand on se marche un peu dessus, qu'on est serré, qu'il y a beaucoup d'enfants dans chaque chambre, c'est vite compliqué. Donc là, nous avions la place d'accueillir même des familles nombreuses de nos amis. Et c'était un pur bonheur. Donc nous avons pu passer du temps avec la famille proche, moins proche. Nous avons pu passer du temps en couple aussi, ça c'est très important pour nous. Nous avons pu inviter des amis des enfants, parfois juste pour une après-midi, parfois pour une semaine entière. Nous avons pu inviter des amis de notre couple, ou des amis en famille, c'est-à-dire que le couple est un ami de notre couple et les enfants sont des amis des enfants. Bref, ça a été un formidable moment de reconnexion cet été. Et ça aussi, ça détend, ce sont des vacances, que de passer du temps avec les amis, hors du rythme, parfois harassant du quotidien. Donc voilà un petit peu notre cocktail magique pendant les vacances en IEF. Je dis que ce sont des vacances en IEF parce que vous voyez que l'instruction en famille influence beaucoup la façon dont nous prenons nos vacances. En particulier la question du travail, la question des visites culturelles. Tout ça est important pour nous. Et puis, avec l'instruction en famille, il y a toujours la fameuse question de la socialisation. Et donc, il est important, alors sachant que beaucoup d'enfants sont scolarisés, c'est vrai que les vacances sont pour nous un moment privilégié pour que nos enfants voient leurs amis pour de courtes périodes ou pour de plus longues périodes. Et donc voilà un petit peu notre cocktail magique des temps de pause. Alors ça, il n'y en a pas eu assez. Il faudra que ça augmente l'année prochaine, où le cerveau peut se mettre en mode par défaut. Un peu de travail pour chacun des enfants, mais vraiment en mode allégé. Peut-être, allez, une demi-heure, trois quarts d'heure le matin, c'est tout. Beaucoup de visites culturelles, beaucoup de jeux en famille, beaucoup de temps passé dans la nature, et surtout, beaucoup de connexions et de temps passé avec notre famille et nos amis. Bref, voilà, j'espère que ce petit partage vous aura intéressé. Nous nous retrouvons maintenant tranquillement en train de préparer notre rentrée. C'est vrai que nous avons... Voilà, les amis sont repartis. Nous n'avons pas de grande visite prévue là dans l'immédiat. Nous préparons simplement la rentrée. Nous avons fait grand ménage dans notre salle de classe. Parce que c'est important de nettoyer de fond en comble de temps en temps. Surtout que le matériel Montessori, la poussière va se nicher absolument partout. Nous avons fait le point des fournitures scolaires. Parce que oui, en IUF aussi, nous avons des fournitures scolaires. Même si on est beaucoup plus économe que dans les écoles. Et donc, tout est à peu près prêt. Il y a encore deux, trois petites finitions à faire. D'acheter des on a acheté aussi quelques nouveaux livres pour travailler ou pour le plaisir de lire. Donc, tout ça est presque prêt pour la rentrée. Et c'est donc malheureusement la fin des vacances. Mais j'ai toujours trouvé que la période de la rentrée était une période enthousiasmante et passionnante. Je prends souvent plus facilement de nouvelles habitudes, de nouvelles routines au moment de la rentrée scolaire qu'au moment du 1er janvier. Vous savez, on prend des bonnes résolutions au 1er janvier. Personnellement, je trouve que les bonnes résolutions sont plus faciles pour moi début septembre parce que le rythme change de toute façon. Et encore plus maintenant que mon mari est professeur, puisque lui aussi, il va vivre au rythme des rentrées scolaires. Donc, je trouve que c'est plus facile de prendre de nouvelles habitudes, de prendre un nouveau rythme. Il y a un nouveau calendrier sur le frigo. Donc j'aime bien partir sur de bonnes bases début septembre et c'est ce à quoi nous travaillons en ce moment. Si vous êtes parent, c'est probablement le cas pour vous aussi parce que forcément vous vivez aussi au rythme de l'école de vos enfants, des activités de vos enfants ou de l'instruction en famille de vos enfants. Donc là aussi, c'est peut-être le moment ou jamais de revisiter ses habitudes et ses routines en se disant « Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de changer ? Dans quel domaine est-ce que j'ai envie de repartir sur de nouvelles bases ?» Là, au moment de la rentrée scolaire. En tout cas, merci pour votre écoute. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note sur iTunes et à laisser un petit commentaire ou à le partager. Peut-être que vous avez un petit groupe WhatsApp familial ou des amis et un petit partage sur WhatsApp du podcast. C'est toujours sympathique. Ça aide à le faire connaître à de nouvelles personnes. Merci, merci beaucoup à vous tous qui avez déjà mis une note. Encore, la plupart d'entre vous mettez 5 étoiles, donc merci beaucoup à ce podcast, à vous tous qui mettez un petit commentaire et qui partagez l'épisode aussi. C'est extrêmement, extrêmement précieux. D'ailleurs, je voudrais partager avec vous un petit un avis qui a été laissé récemment, il y a quelques jours, sur le podcast. La personne a titré son avis pédagogique, pertinent et agréable à suivre. Je cite « Je découvre la pédagogie Montessori et je suis ravie de suivre ce podcast qui éclaire ma formation pour devenir éducateur Montessori. C'est vivant, juste et cela ouvre sur une vision de la vie authentique. Empli de gratitude, j'invite quiconque croit en l'âme incarnée à suivre et mettre en pratique. » Donc merci, merci beaucoup à Laetitia probablement, à 67 Laetti, d'avoir écrit cet avis et donc d'avoir contribué à diffuser ce podcast. Merci à vous tous, je vous dis à la semaine prochaine, votre petite sourisette, Anne-Laure. N'oubliez pas que vous n'avez que jusqu'au dimanche 5 mai pour vous inscrire à notre prochain atelier de parents en discipline positive sur Zoom. Et petit rappel, l'inscription du deuxième parent est offerte. Donc si vous voulez prendre du temps en couple, à la fois pour vous et pour votre famille, eh bien c'est l'occasion ou jamais. Vous pourrez suivre tous les ateliers de chez vous sans même avoir à prendre une babysitter. Mais bien entendu, si vous êtes parent solo, vous êtes tout autant le bienvenu. J'ai donc hâte de vous retrouver les jeudis soirs de 20h30 à 22h30 entre le 16 mai et le 27 juin pour 7 séances de 2 heures en discipline positive. Toutes les informations sont disponibles sur le lien d'inscription que vous retrouverez dans les notes de votre épisode. À très bientôt !